Aujourd'hui, c'est en toute impunité que les hommes utilisent le nom de Dieu pour jurer, ou pire encore, massacrent leurs semblables en son nom. D'autres encore se servent de lui en croyant pouvoir éloigner le mauvais sort. En finale, l'immense majorité des gens ne vouent pas au Seigneur le respect qui lui est dû. Mais cet état de fait ne durera pas indéfiniment, car le jour vient où Dieu jugera toutes les nations de la terre parce qu'elles l'ont méprisé. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté, car ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. » Je continue de lire dans le second chapitre du livre de Sophonie. « Vous aussi, Éthiopiens, vous serez transpercés par mon épée. » Les Éthiopiens descendent de Cush, l'un des fils de Cham, lui-même fils de Noé. Ce peuple habite dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Égypte, le Soudan et le nord de l'Éthiopie. Pour les Israélites, le territoire de ce peuple représente l'extrémité du sud du monde païen. Les rois éthiopiens règnent sur l'Égypte jusqu'à leur défaite par les Assyriens. Sous le règne d'Asa, troisième roi de Juda, il est attaqué par l'Éthiopie par 1 million d'hommes. Mais Asa invoque l'Éternel et lui donne une victoire écrasante sur ses ennemis. Quand Sophonie prononce ses oracles, tout ça, c'est de l'histoire ancienne, vieille de 3 siècles. Et comme depuis ce temps, les Éthiopiens n'ont eu aucun rapport hostile avec Juda, le prophète n'a pas grand-chose à dire contre eux. Cependant, même s'il s'exprime brièvement à leur sujet, sa déclaration est sèche et aussi brutale que le coup fatal qui leur sera porté. Ils seront châtiés par qui sont idolâtres. Quand Nebuchadnezzar fait la conquête de la Palestine, il s'empare de Jérusalem et dans la foulée attaque l'Égypte ainsi que l'Éthiopie, car ces deux nations sont alliées. Bien que dans sa justice Dieu soit obligé de juger le mal, il aime toutes ses créatures et veut les sauver. Dans le livre des Actes des apôtres, nous apprenons que Candace, le premier ministre de la reine éthiopienne, est un prosélyte juif. Il est venu adorer l'Éternel à Jérusalem, puis alors qu'il rentre chez lui, il croise le diacre Philippe qui lui explique qui est Jésus-Christ, et Candace l'accepte comme son sauveur. Je continue de lire le texte de Sophonie. Que l'Éternel étende la main contre le Nord, qu'il fasse périr la Syrie et dévaste Ninive pour en faire un désert aride. En hébreu, tous les verbes sont à l'impératif, ce qui fait de ce passage une prière. Ninive, avec son agglomération, s'étend sur une circonférence d'environ 100 km et sa population compte au moins 120 000 habitants. La ville est protégée par 2 murailles et entre celles-ci, il y a suffisamment de terres agricoles et de pâturages pour nourrir ses habitants. La muraille intérieure a un pourtour de 13 km et une profondeur d'à peu près 17 mètres. Pour cette raison, la ville a la réputation d'être imprenable, ce qui rend ses rois extrêmement arrogants. En langue akkadienne, Ninive signifie « maison du poisson », c'est-à-dire « consacrée au dieu du poisson ». On peut penser que ça ne fait pas très sérieux, mais dans le même ordre d'idées, il existe aujourd'hui des adorateurs de l'oignon. Toutes les formes d'idolâtrie sont irrationnelles. Bien que la Syrie se situe au nord-est de Juda, pour venir en Palestine, ses armées se dirigent d'abord vers l'ouest, en passant par la région du croissant fertile, et ensuite seulement descendent vers le sud. Si Sophonie est bref concernant les Éthiopiens, il s'étend beaucoup plus longuement sur les Assyriens parce que, ayant déjà détruit le royaume des 10 tribus du Nord, ce sont les ennemis jurés des Israélites. Le prophète prédit que le Seigneur détruira les Assyriens et transformera Ninive en désert. Et cela bien que cette capitale ait la réputation d'être imprenable. Les Assyriens inspirent la terreur à cause de leur cruauté. Mais une alliance entre Babylone et les Mèdes réussit à conquérir Ninive. Quelques lambeaux de l'armée assyrienne survivent de cette catastrophe et l'Empire continue d'exister parce que soutenu par le pharaon Necho II. Mais 7 ans plus tard, ce dernier est mis en déroute par les armées de Babylone, ce qui sonne le glas final et définitif à l'Empire assyrien. Le nouveau patron du Moyen-Orient est alors Nabucodonosor. Je continue le texte. Des troupeaux se coucheront au milieu de la ville, des animaux de toute espèce, le pélican, le héron, habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes, ses cris retentiront aux fenêtres, la dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Sophonie décrit une scène de destruction et de désolation complète. Ninive ne deviendra pas seulement une steppe où les bestiaux seront mis en pâture, mais un désert sec et aride où ne séjournent que des animaux sauvages. La présence du pélican et du héron, oiseaux aquatifs fréquemment mentionnés sur les monuments assyriens, s'explique par le fait qu'une rivière traverse les ruines de Ninive. Les animaux remplacent les hommes et construisent leurs nids ou tanières dans les salles des palais démolis. Je finis de lire le chapitre 2. La voilà donc, cette cité joyeuse qui vivait pleine d'assurance et se disait « c'est moi et rien que moi ». Comment est-elle devenue une terre aussi désolée, un gîte pour les bêtes? Quiconque passera dans sa proximité se moquera d'elle en sifflant et en faisant des gestes de la main. Ceux qui passent à côté de Ninive, en ruine, sifflent en signe de dérision et agitent la main pour exprimer leur approbation et comme pour dire « elle a bien mérité ce qui lui est arrivé ». L'expression « moi et rien que moi » exprime la satisfaction hautaine de se voir sans rival, mais c'est en même temps comme un défi lancé à Dieu. Ésaïe place ces mêmes mots dans la bouche de Babylone. De plus, Ésaïe utilise aussi l'arrogance du roi de Babylone comme représentatif du type emblématique de l'hubris, l'orgueil démesuré de Lucifer, quand il a voulu usurper le trône de l'Éternel. Sophonie a déjà mentionné l'orgueil de 2 catégories de personnes. Ceux qui se détournent complètement de Dieu et les Moabites. Le péché d'orgueil est peut-être bien le plus grave qui soit car il semble être à la base de tous les autres. Et il paraît que seul l'orgueil empêche quelqu'un sur son lit de mort d'accepter Jésus comme son sauveur. C'est en tout cas la constatation tragique que j'ai faite. Nous arrivons au 3e chapitre du livre de Sophonie, où le prophète reparle du jugement à venir de Jérusalem. Après avoir décrit le châtiment qui frappera les nations qui entourent le royaume de Juda, il va maintenant dresser la liste de ce que l'Éternel reproche à son peuple, puis prononcer le châtiment qui va le frapper. Je commence de lire. Malheur à la rebelle, à la ville souillée, la ville tyrannique. Même si Jérusalem n'est pas explicitement nommée, la suite du texte montre que c'est bien elle qui est dans le collimateur du prophète et donc de l'Éternel. Sophonie menace Jérusalem à cause des morses de ses habitants qui sont d'aussi dissolus que celles des villes païennes. Le prophète n'essaye pas d'arrondir les angles et il va utiliser un vocabulaire particulièrement violent contre le peuple de Dieu, parce que leur culpabilité est bien plus grande que celle des païens. En effet, comme les Israélites ont le privilège de connaître le Dieu unique et vrai, ainsi que ses lois morales, leur responsabilité vis-à-vis de lui, ainsi que leur témoignage envers les autres nations, est très grande. Mais au lieu d'être une lumière à la gloire de l'Éternel, les Israélites ont sombré dans une idolâtrie de bas étage et dans la crasse morale la plus immonde. Si l'exil babylonien a guéri les Israélites de leur idolâtrie grotesque et persistante, leur corruption morale a perduré au travers des siècles. À l'époque de Jésus, les responsables religieux sont spirituellement et moralement décadents, ce qui explique pourquoi le Seigneur les maudit et envers eux encore plus dur que Sophonie. Le prophète traite Jérusalem de rebelle. Ce mot hébreu est très proche du nom de la montagne Morija, sur laquelle Abraham emmène son fils Isaac pour l'offrir en holocauste à l'Éternel. Au plus tard, le temple est bâti. Sophonie fait un jeu de mots pour établir un contraste entre la source de salut qu'aurait dû être Jérusalem et la triste réalité de ce qu'elle est devenue. Les trois accusations qui sont portées contre Jérusalem sont la rébellion contre l'Éternel, sa souillure à cause des innombrables péchés commis en son sein, et l'oppression cruelle qu'elle exerce contre les faibles, ceux qui n'ont aucun moyen de défense, c'est-à-dire le pauvre. Plus tard, le prophète Jérémie essaiera d'amener ses concitoyens à changer les mêmes comportements condamnables. Je lis le passage. « Si vous vous abstenez d'exploiter l'émigré, l'orphelin et la veuve, de tuer des innocents en ce lieu et d'adorer d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous ferai habiter dans ce lieu, ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Voici ce que dit l'Éternel. Exercez le droit et la justice. Délivrez celui que l'on exploite de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ne commettez pas de violence envers eux. Ne tuez pas des innocents dans ce lieu. » La souillure de Jérusalem est évidemment morale. Mais aujourd'hui, quand on parle de pollution, il s'agit des bouteilles ou des sacs de plastique qui sont omniprésents, ou bien des produits industriels qui sont déversés dans la mer et les cours d'eau. Mais on passe sous silence la souillure morale, qui est bien plus importante que tout ce qu'on peut trouver dans la nature, et bien plus grave, car elle pollue les âmes. Jésus dit, « Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. » En parlant des Juifs et des païens, l'apôtre Paul écrit aux Romains : ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y a pas un qui fasse le bien, non, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper, ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine d'aigres malédictions, leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Je continue le texte. Jérusalem n'a pas écouté et n'a pas tenu compte de mes châtiments. Elle n'a pas mis sa confiance en l'Éternel, son Dieu, et ne s'est pas tournée vers lui. Sophonie brosse, à grands traits, les fautes de l'ensemble des habitants du royaume de Juda. En fait, ils se sont rendus coupables de ces péchés depuis leurs ancêtres sortis d'Égypte. Par l'intermédiaire de Moïse, l'Éternel dit plusieurs fois que les Hébreux sont un peuple aux coups raides. Ici, Sophonie leur reproche de ne pas avoir écouté la voix de Dieu qui parle dans la loi et par la bouche de ses prophètes, de ne pas avoir tiré profit des avertissements que Dieu leur a donnés ou des châtiments qu'ils ont subis, car ils n'ont pas eu à cœur de s'humilier. Sous le règne du roi Ézéchias, 185 000 soldats assyriens campent devant les murs de Jérusalem. Les habitants sont terrorisés, mais en un rien de temps, Dieu se débarrasse de leurs ennemis. Malheureusement, les Israélites ont la mémoire courte et oublient vite cet incident qui aurait pourtant mis fin à Juda si le roi n'avait pas crié à l'Éternel et si Dieu n'avait pas fait périr les soldats assyriens. En troisième lieu, Sophonie reproche aux Israélites de ne pas mettre leur confiance en l'Éternel. Chaque fois qu'ils sont en danger, ils cherchent de l'aide humaine en faisant alliance avec les nations païennes et prient des idoles pour être délivrés. Seuls quelques rois de Juda, comme Josias, profitent des privilèges que l'Éternel a donnés à son peuple. Ils invoquent son nom. Tous les autres rois sont simplement indifférents au terme de l'alliance que Dieu conclut avec Israël, la rendant ainsi caduque par son prophète Jérémie. Dieu dit, « Mais eux, ils n'ont pas écouté, non, ils n'ont pas prêté l'oreille, mais ils se sont conduits selon leur propre raisonnement et selon les penchants de leur mauvais cœur. Ils sont devenus pires au lieu de devenir meilleurs. Tout cela leur arrive parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais placée devant eux et ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas fait ce que je leur ai dit, mais ils se sont conduits selon les penchants de leur cœur et ils se sont attachés au mal que leurs pères leur ont fait connaître. » Je continue le texte de Sophonie. Ces grands, au milieu d'elles, sont des lions rugissants. Ces juges sont des loups du soir qui, au matin, n'ont plus rien à ronger. Sophonie décrit ici la vie de la nation et en particulier de Jérusalem, alors que le roi Josias est encore un enfant, et donc avant qu'il ne prenne la direction du pays en main et lance sa première réforme religieuse. La loi de Moïse mentionne quatre fonctions qui correspondent à de hautes responsabilités vis-à-vis du peuple. Il s'agit des dirigeants politiques, des juges, des prophètes et des prêtres. L'image des lions rugissants est utilisée dans le livre des Proverbes et de Michée pour décrire les actions des grands du royaume qui, au lieu de protéger le peuple, le déchirent avant de le dévorer. C'est le matin que les magistrats rendent normalement la justice et prononcent leur verdict. Ils doivent aussi donner l'exemple en menant une vie droite et vertueuse. Mais au lieu de cela, ils se conduisent en rapaces accomplis. Comme des prédateurs voraces, ils profitent de la nuit pour manigancer des mauvais coups. Et dès le matin, l'affaire est dans le sac et leurs victimes sont dépouillées. Je continue. Ces prophètes sont arrogants, portés aux trahisons. Ces prêtres sont souillés. Ils ont souillé les objets sacrés. Ils ont violé la loi. Le mot pour arrogant veut dire débordé, en parlant d'un liquide en ébullition ou bien léger comme le vent. Ce sont des faux prophètes qui prétendent parler au nom de l'Éternel, mais qui racontent n'importe quoi pour servir leurs propres intérêts. Vis-à-vis de Dieu, ce sont donc des traîtres. Quant aux prêtres, le prophète Ézéchiel explique leur faute quand il dit « Tes prêtres violent ma loi, ils profanent ce qui est saint. Ils ne font aucune différence entre saint et profane. Ils n'enseignent pas à discerner entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils ignorent volontairement mes jours de sabbat, de sorte que je suis déshonoré par eux. » Sous l'ancienne alliance, l'éducation des Israélites repose sur la distinction entre le pur et l'impur dans les domaines religieux, civil et social. Les prêtres ont la charge sacrée de s'assurer que cette distinction soit toujours bien présente dans la conscience du peuple. Dans le livre du Lévitique, il est écrit que les prêtres doivent être en état de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, et ce qui est rituellement pur de ce qui est impur, capables d'enseigner aux Israélites toutes les ordonnances que l'Éternel leur a donné par Moïse. Et le prophète Malachie écrit « Le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance. C'est vers lui qu'on revient pour recevoir l'enseignement. Il est le messager du Seigneur des armées célestes. Mais au lieu de servir Dieu, les prêtres ne respectent plus les ordonnances de la loi et utilisent leurs fonctions à des fins personnelles, c'est-à-dire pour se remplir les poches, tout comme les dirigeants politiques et les juges. Moi, je me dis que tout compte fait, il n'existe que deux divinités dans le monde, l'Éternel, le Dieu unique et vrai, et l'argent que Jésus appelle Mammon. Ce dernier est une idole, sorte de fourre-tout, dans lequel on peut également ranger la prospérité et le bien-être. À tout moment, vous et moi devons choisir qui nous voulons servir. Je continue le texte. Cependant, l'Éternel est présent dans sa ville, et il s'y montre juste. Il ne fait rien de mal. Matin et soir, il rend ses jugements. Dès l'aube, il ne fait pas défaut. Cependant, le méchant ne connaît pas la honte. Au débordement d'iniquité, Sophonie oppose la parfaite sainteté de Dieu, qui a fixé sa demeure à Jérusalem, au milieu de son peuple. C'est là qu'il manifeste sa présence et sa justice au moyen des prophètes de l'Éternel. Tandis que les impies continuent sans honte dans leur mauvaise voie, Dieu ne cesse jamais de les avertir. Et s'ils ne se repentent pas de leurs mauvaises actions, il les jugera. C'est vrai pour le royaume de Juda, mais c'est tout aussi vrai pour vous et pour moi.